Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la conférence téléphonique de l'Assemblée générale de la société Coface SA. Je laisse à présent la parole à Monsieur François Riahi, président du conseil d'administration. Monsieur, c'est à vous.
Merci beaucoup, mesdames et messieurs, bonjour. Je souhaite tout d'abord la bienvenue aux actionnaires réunis en assemblée générale mixte sur convocation du conseil d'administration du 5 février dernier. Dans le contexte de l'épidémie de Covid-19, le conseil d'administration de Coface SA a décidé de tenir l'assemblée générale du 14 mai 2020 à huis clos, sans la présence physique des actionnaires, en application de l'ordonnance numéro 2020-321 du 25 mars 2020. Les modalités particulières de participation ont été portées à la connaissance des actionnaires sur le site internet de la société. Les représentants de la société présents aujourd'hui par voie de télécommunication sont Xavier Durand, directeur général, Karine Pichon, directeur financier et risque, Carole Litton, secrétaire générale, Julien Marcilly, économiste en chef. Je vais procéder d'abord aux formalités d'usage. Tout d'abord, la composition du bureau. Je préside l'Assemblée en qualité de président du conseil d'administration de Coface SA en application de l'article 23 des statuts. Donc, je procède maintenant aux formalités de constitution du bureau. J'appelle aux fonctions de scrutateur les représentants des deux actionnaires ayant le plus grand nombre de voix et ayant accepté cette mission. Il s'agit de Madame Nathalie Desremaux, qui représente Natixis, et de Monsieur Vincent Valdecabre, qui est représentant de SIAB, que je remercie de leur présence. Ils sont connectés et suivent la séance. Je propose au bureau de désigner Madame Carole Litton comme secrétaire du bureau. Je remercie également de leur présence les administrateurs qui nous écoutent, parmi lesquels Monsieur Olivier Zarwati, président du comité des nominations et des rémunérations, que nous allons entendre au cours de l'Assemblée. Je salue enfin Monsieur Jérôme Lemierre, du cabinet Deloitte et Associés, qui représente le collège des commissaires aux comptes, composé de KPMG et de Deloitte et Associés, et qui nous présentera les rapports prévus par la loi. Alors, en ce qui concerne le quorum, le nombre d'actions à prendre en compte pour le calcul du quorum s'élève à 150 681 398, qui représentent autant de voix. La feuille de présence indique que les actionnaires ayant exprimé leur droit de vote possèdent ensemble 126 936 841 actions, soit 84,242% des actions ayant droit de vote. Cette assemblée se tient sur première convocation. Le quorum requis, soit le cinquième des actions ayant droit de vote pour l'Assemblée générale ordinaire, s'élève à 30 136 280 actions. Le quorum requis pour l'Assemblée générale extraordinaire est du quart des actions ayant droit de vote, soit 37 670 350 actions. Je précise qu'il n'y aura pas de vote en séance. Les actionnaires de la société ayant eu la possibilité d'exprimer leur vote à distance préalablement à l'Assemblée générale, par correspondance, par pouvoir au président ou au travers de la plateforme électronique VoteAccess. L'Assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer. L'ensemble des présentations qui vous seront faites sont dès à présent accessibles sur le site internet de la société sous la rubrique Investisseurs Assemblée, sur le site de la société dont l'adresse est coface.com. Tous les documents devant être communiqués aux actionnaires avant l'Assemblée, conformément à la législation sur les sociétés commerciales, ainsi que les statuts, ont été tenus à leur disposition au siège social, publiés sur le site de la société ou transmis sur simple demande. Leur liste figure sur le slide numéro 6 du document que je vous indiquais tout à l'heure et qui est sur le site internet. L'Assemblée générale mixte a été convoquée pour statuer sur l'ordre du jour. Les actionnaires ont pu prendre connaissance de cet ordre du jour à travers les différentes publications légales et dans le document de référence. Cet ordre du jour, décrit dans les slides 7, 8 et 9, comporte à titre ordinaire les points classiques liés à l'approbation des comptes, l'affectation des résultats, l'approbation des conventions réglementées, l'autorisation donnée à la société d'opérer sur ses propres actions, la ratification de la cooptation d'un administrateur, l'approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 en application de l'article L225-102 du Code de commerce, l'approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ou attribués au titre du même exercice au directeur général en application de l'article L225-102 du Code de commerce, l'approbation de la politique de rémunération du directeur général pour l'exercice 2020 en application des dispositions de l'article L225-37-2 du Code de commerce, l'approbation de la politique de rémunération des administrateurs au titre de l'exercice 2020, en application de l'article L225-37-2 du Code de commerce, le renouvellement d'un commissaire aux comptes titulaire et la proposition de non-remplacement d'un commissaire aux comptes suppléant. À titre extraordinaire, le renouvellement d'un certain nombre d'autorisations ou de délégations financières conférées au Conseil, ainsi qu'une modification statutaire relative à l'âge du président du Conseil d'administration. En ce qui concerne les questions écrites, 3 questions écrites ont été reçues préalablement à l'Assemblée. La réponse à ces questions est publiée sur le site Internet de la société à la rubrique Investisseurs Assemblée. Le programme de l'Assemblée d'aujourd'hui s'organisera en plusieurs temps. Tout d'abord, Julien Marcilly, économiste en chef, présentera le point de vue de COFAS sur l'environnement macroéconomique. Vous retrouverez des éléments dans les slides 11 et 12. Ensuite, Xavier Durand, directeur général, et Karine Pichon, directeur financier et des risques, commenteront les comptes de l'exercice écoulé et les chiffres clés du premier trimestre 2020. Il sera également fait un point sur l'impact du Covid-19 sur la société et l'évolution du cours de bourse. Tout cela, vous pourrez le retrouver dans les slides comprises entre 15 et 39. L'Assemblée entendra ensuite les commissaires aux comptes. Je présenterai ensuite l'activité du Conseil et des comités spécialisés du Conseil pendant l'exercice 2019, qui sont éléments qui sont présentés dans les slides 42 à 48. Monsieur Olivier Zarouati, président de la société Telem, administrateur indépendant et président du comité des nominations et des rémunérations, fera une présentation des différents éléments relatifs à la rémunération des mandataires sociaux non exécutifs et du directeur général pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, ainsi qu'à la politique de rémunération pour l'exercice 2020, et vous retrouvez les éléments sur les slides, les pages 50 à 60. Enfin, Carole Litton, secrétaire du Conseil, présentera aux actionnaires le résultat des votes des projets de résolution. Il est précisé qu'en application de la loi de simplification du droit des sociétés du 19 juillet 2019, ne sont plus pris en compte pour le calcul de la majorité les votes blancs, nuls ou les abstentions. Seuls sont comptabilisés les votes pour et contre. Et donc, je passe tout d'abord la parole à Julien Marcilly.
Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. L'objectif de cette courte présentation est de vous présenter quelles sont les perspectives économiques, évidemment, dans le contexte actuel de la pandémie de Covid-19. Cette pandémie aura des implications économiques nombreuses. C'est une crise qui est tout à fait singulière, à la fois par sa nature et par son ampleur. On l'a comparé aux précédentes grandes crises, celle de 2008-2009, celle de 1929, mais qui étaient d'une nature complètement différente, puisqu'elles étaient d'abord des crises financières, qui ensuite se propageaient progressivement au reste de l'économie, et en particulier à l'économie réelle. Alors cette fois-ci, c'est différent, puisque l'origine de la crise est bien sûr sanitaire, mais elle a un impact immédiat sur l'économie réelle, et en particulier les entreprises. Cette crise aussi a été comparée à d'autres types de chocs économiques, comme des catastrophes naturelles ou des conflits, mais là encore, il nous apparaît que cette comparaison a ses limites, hein, puisque habituellement dans ce genre de choc économique comme des catastrophes naturelles, l'économie repart ensuite grâce à des investissements lourds en matière de reconstruction. Alors, cette fois-ci, l'appareil productif ne sera pas affecté. Donc c'est une crise qui est vraiment unique en son genre et qui va avoir un impact négatif sur le revenu de tous les types d'agents économiques, hein, qu'ils soient consommateurs, que ce soit les États et bien sûr les entreprises. Pour les entreprises, justement, c'est un double choc, à la fois d'offres que l'on a tous pu observer pendant cette période de confinement, avec des entreprises qui étaient empêchées d'exercer leur activité à pleine capacité. Et c'est aussi évidemment un choc de demande, à la fois en période de confinement, mais bien sûr ensuite, même une fois que ce confinement prend fin progressivement, parce que les consommateurs sont évidemment plus inquiets en raison de la situation sanitaire, Ils sont également plus inquiets en raison de la détérioration des conditions économiques et sociales qui va se répercuter sur le sur et qui a déjà commencé à se répercuter sur l'emploi, ce qui fait que ce double choc d'offres et de demandes eh bien, va affecter tous les secteurs d'activité. En premier lieu, ceux qui étaient déjà dans une situation de faiblesse avant cette crise. Nous alertions déjà l'année dernière sur les vulnérabilités croissantes dans des secteurs d'activité comme l'automobile ou la métallurgie. Évidemment, les secteurs d'activité qui vont également être les plus touchés par cette crise de la mobilité en quelque sorte sont les transports, le tourisme, l'hôtellerie, mais plus généralement toutes les autres filières manufacturières sont également bien sûr affectés par cette situation. À l'autre bout de l'échelle, les deux secteurs d'activité qui seront les moins affectés mais qui seront quand même pénalisés sont le secteur pharmaceutique pour des raisons évidentes, mais également le secteur agricole et agroalimentaire, même si là encore il faut regarder filière par filière parce que les dynamiques sont différentes. La dynamique est la même et le constat est le même si on s'intéresse plus à la situation secteur par secteur, mais pays par pays. L'économie mondiale sera en récession cette année et toutes les principales économies auront donc une croissance négative. L'ampleur de cette récession, pays par pays, dépendra de plusieurs variables. La première, c'est quelle est l'ampleur du choc initial. C'est-à-dire est-ce que le pays en question aura décidé des mesures de confinement strictes et pendant quelle durée. Ensuite, quelle sera la vitesse de la reprise. Là aussi, ça va varier d'un pays à l'autre. Et puis, au-delà de ces considérations assez conjoncturelles, finalement, est-ce que un secteur d'activité ou un pays, à la fin de cette période de prévision, d'ici un an et demi, deux ans, eh bien, est-ce qu'il aura retrouvé son niveau de production d'avant-crise ou alors est-ce que cette crise aura constitué finalement un choc structurel et durable pour ce pays. Le message principal est qu'il y a évidemment un degré d'incertitude très fort sur les fluctuations conjoncturelles à venir, mais dans la majeure partie des cas, pour la plupart des grandes économies, même à la fin de l'année 2021, leur niveau de PIB, donc d'activité économique, devrait être encore inférieur de 2 à 5 points en fonction des cas à celui qui était observé à la fin de l'année 2019. Et évidemment, ces conditions difficiles au niveau macroéconomique sont visibles et ont des conséquences sur les entreprises et donc sur leur sinistralité et le nombre de défaillances. C'est ce que vous voyez sur le graphique du slide numéro 11, je crois, qui vous indique que nous anticipons une hausse à deux chiffres du nombre de défaillances d'entreprises dans la plupart des grandes économies cette année, avec évidemment des rythmes différents d'un pays à l'autre, mais une tendance quand même généralisée à la hausse de la sinistralité des entreprises. Alors sur ce graphique, vous voyez essentiellement des économies matures, des économies avancées. Vous y voyez assez peu d'économies émergentes pour une raison évidente de disponibilité de données en matière de défaillance d'entreprise. Pour ce qui concerne le monde émergent, la situation est un peu différente sur le plan sanitaire. Certes, beaucoup de d'économies émergentes et de pays ont dû aussi décider des mesures de confinement plus ou moins strictes, mais généralement, ces confinements auront duré moins longtemps et auront eu en tant que tel un peu moins d'impact économique que dans les économies matures. Parfois, dans certains cas, comme en Europe centrale, parce que les gouvernements ont été plus réactifs que dans d'autres régions. Dans d'autres cas, comme au Moyen-Orient ou en Afrique, parce que les populations sont plus jeunes, parce que ces pays ont aussi l'expérience d'épidémies passées. On pense également évidemment à l'Asie qui est dans ce cas de figure. Mais il y a des exceptions notoires, la Russie, le Brésil, le Mexique, où la crise sanitaire est encore très présente. Et au-delà de ce choc sanitaire, le problème pour les économies émergentes, et pas seulement les dernières que je viens de citer, mais toutes, c'est que même si la crise sanitaire, même dans les cas où la crise sanitaire a été plutôt bien gérée, eh bien, toutes les régions émergentes vont subir différents effets de contamination de la mauvaise situation économique qu'on observe dans les économies avancées. Et donc, il y a plusieurs sources de risques possibles que nous avons essayé de résumer. Vous les voyez, ces différentes sources de risques sur le slide suivant. Et nous avons donc classé les économies émergentes en fonction de leur vulnérabilité face à ces risques. Donc évidemment, si un pays a mis en œuvre des mesures de confinement, ça aura un impact sur les perspectives économiques à court terme. Le niveau de faiblesse et de risque initial de cette économie émergente qu'on mesure ici avec notre mesure du risque souverain et du risque de change compte aussi. Et comme vous le savez, les cours des matières premières, et en particulier des matières premières non agricoles, ont beaucoup baissé ces derniers mois en raison des moindres perspectives de demande et des tensions, notamment sur le marché pétrolier. Donc beaucoup d'exportateurs de ces matières premières vont être affectés par ce biais-là. Et puis, le dernier canal de transmission qui nous semble essentiel dans le cas des économies émergentes, c'est celui du tourisme. Je vous disais que cette crise est avant tout une crise de la mobilité. Et donc, il est illusoire d'anticiper une reprise rapide du tourisme et des déplacements internationaux et d'un retour à la normale, en tout cas. Ce qui aura évidemment un impact très significatif pour un certain nombre d'économies émergentes. Et donc vous voyez quelle est la situation face à tous ces risques pour les principales économies émergentes en haut du tableau, puis par ordre décroissant de risque, eh bien les pays émergents qui nous semblent les plus exposés à plusieurs de ces chocs. Donc, comme vous le constatez, les répercussions économiques de cette pandémie sont extrêmement nombreuses. Elles sont fortes la plupart du temps. Et j'ai essayé donc en quelques minutes de vous en présenter les principales. Je laisse maintenant la parole à Xavier et Karine qui vont vous présenter les résultats de COFAS.
Très bien. Je prends la parole de François. Merci, merci bien. Julien. Et alors là, on va commencer par parler des résultats de l'année 2019. Alors, on revient en arrière, j'allais dire, au monde d'avant, c'est-à-dire avant la crise Covid. 2019 a été une année record pour COFAS. Elle marquait la fin de notre plan à 3 ans Fit to Win. Et elle marquait un contexte de remontée progressive de la volatilité après le pic économique que nous avons connu en 2017, mais avant, bien sûr, la crise du Covid-19. En 2019, COFAS a enregistré un résultat net record de 146,7 millions d'euros, qui est en hausse de 20%. Vous le voyez sur la page 15, le chiffre d'affaires à 1,481 milliard est en hausse de 5,9%. Cela représente la meilleure année de croissance de COFAS depuis très longtemps. La croissance de l'activité d'assurance crédit est à 7% à périmètre et taux de change identique. À la fois, on voit une amélioration de la production nouvelle et de la rétention et la contribution de l'ensemble des régions à la croissance. Le ratio de sinistralité, lui, est en amélioration de 0,1 point à 45%. Amenant un ratio combiné net à 77,7%, là encore, au-dessous de l'objectif de 83% à travers le cycle que nous nous étions fixés. On voit également le ratio de coût net annuel en baisse de 1,8 point à 32,7 contre 34,5 en 2018, qui montre un contrôle accru des coûts et en même temps l'impact de la hausse du chiffre d'affaires. Cela amène le résultat net part du groupe à 146,7, comme je l'ai dit, qui représente un bénéfice par action qui atteint un niveau record de 0,97 euros en hausse de 23%. L'entreprise avait aussi annoncé un accord pour acquérir une société en Norvège qui nous donne accès à un marché où nous étions jusqu'ici très sous-représentés. Donc une année record pour Coface. Sur la page 16, je montre également les questions de solvabilité. L'année 2019 se termine pour Coface avec une solvabilité renforcée à 190%, très au-dessus donc de la marge de 140 à 160 que nous avions établie à l'époque pour notre objectif. Le retour sur fonds propres tangibles s'établit à 8,9% et à 9,1% si l'on enlève des éléments exceptionnels, donc au niveau que l'on s'était fixé dans le cadre du plan Fit to Win. La solvabilité était calculée donc à fin 2019 avec le modèle interne partiel qui a été approuvé par le régulateur à fin novembre 2019. Nous avons aussi implémenté une nouvelle méthodologie sur le segment de la facturage et défini une nouvelle cible de solvabilité dans le cadre de cette application du modèle interne partiel qui est de 155 à 175% d'objectif de solvabilité. Objectif qui fait maintenant l'objet du nouveau plan Build to Lead que nous avons annoncé en février. La rétention en termes de réassurance est en hausse après que nous ayons baissé la quote-part de réassurance à 23% pour 2020 contre 26% en 2019, ce qui était consistant avec notre profil de risque. Bien sûr, mon mandat personnel a été renouvelé pour 4 ans. Et nous avons présenté un nouveau plan stratégique le 25 février 2020 que nous avons appelé Build to Lead. D'un point de vue timing, c'était relativement malheureux, je dirais, puisque c'était 3 semaines avant le début du confinement et l'avènement de la crise Covid-19 dont nous avons parlé juste avant. La page 17 reprend les principaux objectifs que nous nous étions fixés dans le plan Fit to Win, et vous voyez que nous avons atteint ou dépassé l'ensemble de ces objectifs à travers le cycle. Vous voyez que en haut à gauche, le retour sur fonds propres a atteint 9,1% hors éléments exceptionnels. C'est le niveau que nous nous étions fixé pour l'objectif de Fit to Win à travers le cycle. Les économies de coûts ont été significatives. Elles vont représenter 48 millions d'euros en 2019, et nous avons dépassé de 30% environ l'objectif de 30 millions d'euros que nous nous étions fixés pour 2018. Le ratio de solvabilité, lui, est passé au cours de la période de 150 à 190%, là encore au-dessus de la fourchette que nous nous étions fixés dans le cadre de Fit to Win de 140 à 160%. Le ratio combiné à 77,7% était très au-dessous des 83% d'objectifs à travers le cycle que nous nous étions fixés, encore une fois, dans le cadre de ce plan. Et puis, point de satisfaction, le chiffre d'affaires, après des années de stagnation ou de décroissance, est reparti en hausse, particulièrement au cours de l'année 2019. Au total, sur la période de fin 2016-2019, la croissance de l'entreprise est de 9%, avec une satisfaction en particulier de la reprise de la croissance sur les marchés mûrs. Et puis finalement, un dernier objectif, et non des moindres, que nous nous étions fixés, celle d'améliorer l'efficacité en capital de la société qui a été atteint par la validation du modèle interne que nous a donné le régulateur fin 2019. Sur la page 18, on voit un peu plus de précision sur l'aspect du chiffre d'affaires, donc en hausse de 5,9% comme je l'ai déjà dit. L'assurance crédit métier de base de Coface est en hausse de 7% à taux de change et périmètre constant. C'est la plus forte hausse depuis environ 10 ans. Cette croissance est portée par une rétention record de 91,6% de nos clients existants et l'activité sous-jacente de nos clients qui, quoique en diminution, reste encore bonne. Le chiffre d'affaires total est en hausse de 6,7% et on voit que les activités de service que nous développons compense le travail qui est fait sur le facturage qui a fait l'objet d'un plan d'amélioration depuis mi-2018 et qui se traduit par une baisse relative de la contribution de la facturage au groupe. Sur la page 19, on voit que toutes les régions, autre point de satisfaction, contribuent en 2019 à la croissance, avec un fort rebond en Europe de l'Ouest à 3,4%, qui constitue certainement la meilleure année depuis longtemps, un rebond identique en Europe du Nord à 1,5%, avec en sous-jacent une hausse de l'assurance crédit de 3% et une baisse, comme je l'ai dit, relative de la facturage. Une hausse de 2,4% en Europe centrale, où nous avons été relativement prudents depuis quelque temps sur, en particulier, la Pologne. Une croissance forte et continue qui se confirme en Méditerranée et Afrique à 6,7%. Un début de redressement aux États-Unis à 4,2%, où les efforts que nous menons depuis 2 ans pour reprendre le contrôle de notre distribution portent leurs fruits. Une forte croissance, quand on enlève les éléments exceptionnels, à 11% de l'Asie-Pacifique après, je dirais, une période difficile en 2016, 2015, 2016. Et puis, une croissance importante en Amérique latine qui était portée par des contrats qui ont été signés en 2018, mais une région sur laquelle nous restons, bien sûr, très prudents au regard des événements et des développements en matière économique. Sur la page 20, un ratio de sinistralité brute qui est en amélioration à 43,4%. Tout ça dans un environnement qui progressivement devient plus risqué depuis le pic économique atteint en 2017. Et vous voyez la séquence annuelle et trimestrielle en haut à gauche du graphique. L'année 2019 était en baisse en matière de sinistralité par rapport à 2018. Et c'est la meilleure année que nous ayons faite depuis longtemps. Les fréquences était en hausse de façon consistante avec un contexte économique qui se ralentissait progressivement. Les récupérations sur exercice antérieur restent excellentes, comme vous le voyez en bas à droite sur le graphique. Quand on regarde sur la page 21, la répartition géographique, on voit que on continue d'observer une amélioration de la performance sur les marchés matures. Vous voyez que l'Europe centrale, les travaux que nous avons menés, j'en parlais tout à l'heure, sur la Pologne en particulier et d'autres pays, portent leurs fruits avec une année qui se termine à 42,5%. En Europe de l'Ouest, on a une situation qui est très bonne et très stable à 34,6%. En Europe du Nord, là encore, très forte amélioration à 41% environ, bien au-dessous des années précédentes. En Méditerranée et en Afrique, très stable à 46,3%. Une performance en Amérique du Nord à 45,8% qui est bonne. En Asie-Pacifique, une performance que je qualifierais de très bonne parce que vous savez que c'est une zone sur laquelle il y avait eu de la volatilité dans le passé. Et puis, des risques qui sont contenus en Amérique latine. Quand on enlève les effets de change, on termine l'année à 53,4%. Dans un contexte économique qui est certainement celui qui, en 2019, était le plus difficile parmi toutes les régions du monde l'année dernière. Page 22, vous voyez les résultats en matière de coûts. La société, depuis maintenant 4 ans, fait preuve d'une très forte discipline en matière de coûts. Nous avons mené de nombreux projets de gestion des coûts, dont on voit aujourd'hui l'aboutissement. Vous voyez que sur les 12 mois de 2019, les coûts totaux sont en hausse de 2,3%, qui est inférieur, je dirais, à la hausse sous-jacente, à l'inflation sous-jacente à nos coûts, en particulier salariaux au niveau international. Vous voyez que le ratio de coûts, lui, est en amélioration brute, mais quand on le regarde en net, on est à 34,4% comparé à 35,9%. En 2018. Cette amélioration est tirée par, d'une part, la croissance des primes qui est très supérieure à la croissance des coûts et donc un effet de levier qui se traduit par une amélioration de l'efficacité opérationnelle de Coface en 2019. Avec ça, je vais passer la parole à Karine Pichon pour parler de la suite de cette présentation pour 2019.
Merci Xavier, bonjour à tous. On continue sur le transparent 23 qui fait un état du résultat de la réassurance avec un élément important, c'est qu'à partir de janvier de cette année, donc 2020, nous avons décidé de revoir le taux de cession qui est passé à 23%, dont je rappelle qu'il est réparti en deux traités pour avoir une visibilité sur 2 ans, avec une très légère amélioration des conditions de réassurance, même si l'année dernière le marché était déjà plus complexe. Quand on regarde le ratio combiné, donc le transparent 24, on voit effectivement une amélioration en 2019 de 1,9 points, avec une stabilisation de la sinistralité dans un environnement de risque qui certes n'était pas celui de 2020, mais en 2019 était déjà plus difficile que l'année précédente en 2018. Les gains qu'on a pu faire sur l'efficacité opérationnelle se traduisent, comme cela vient d'être commenté par Xavier, dans le ratio de coût net, puisqu'il passe de 34,5% sur l'année 2018 à 32,7% sur l'année 2019. On voit également en bas du transparent la chronique trimestrielle où on voit que le dernier trimestre de l'année 2019 était également en amélioration par rapport au dernier trimestre 2018 et était de toute façon inférieur au ratio combiné à travers le cycle qui était défini dans le cadre du plan précédent Fit to Win. Sur le portefeuille financier, page 25, on a un rendement que l'on a stabilisé. Le rendement comptable du portefeuille d'investissement a été de 2% et hors plus ou moins value de l'attente, donc de 1,6%, donc similaire à l'année 2018. Le rendement donc est stable. Le résultat en tant que tel a cependant baissé, mais c'est suite à des décisions de réorganisation de nos opérations dans un certain nombre de pays et d'optimisation qui a conduit à baser des provisions de dépréciation de restructuration. C'est notamment le cas au Pérou. Donc tout ça donne, page 26, un résultat net à 146,7 millions d'euros, un résultat opérationnel donc avant impôt de près de 225 millions d'euros, donc à un niveau historique. On a enregistré un certain nombre de dépenses de restructuration et d'investissement, notamment suite à des optimisations que l'on va faire encore cette année en Allemagne, et un taux d'impôt qui est resté maîtrisé à 29%. Tout ça donnait un bénéfice par action de un peu moins d'un euro par action. La traduction de ce résultat également, page 27, en rendement sur fonds propres moyens, donc c'est 8,9%, donc et même 9,1% si on enlève certains éléments non récurrents, donc une hausse par rapport à 2018 qui était un peu moins de 8%, et même encore une hausse si on compare avec les années précédentes. À noter que les fonds propres, les capitaux propres ont progressé à la hausse, principalement par la revalorisation des portefeuilles financiers qui, compte tenu de la bonne tenue des marchés en 2019, a permis de reprendre d'augmenter nos fonds propres. Page 28, un point sur la solvabilité. Alors, on a une solvabilité qui a été estimée à fin 2019 à 190%. C'est évidemment un niveau qui est haut, à la fois par rapport aux années précédentes, c'est ce que vous voyez entre 2016 et 2019. Hein, finalement, on finit le plan avec un niveau de solvabilité de 40 points supérieur à la solvabilité que l'on avait au moment où on est entré dans le plan. On est également au-dessus de la zone de confort qui a été recalibrée suite à la validation du modèle interne. Je rappelle que cette zone de confort est entre 155 et 175%. On reste, et là la crise l'a bien montré, assez peu sensible au risque de marché, mais par contre évidemment sensible à des scénarios de crise d'augmentation de la sinistralité. Je rappelle que quand on simule une crise qui ressemble un peu à 2008, qu'on considère comme une crise sur 50 ans, c'est ce que vous voyez en bas à droite, on aurait été à 169-170%, donc malgré tout un niveau confortable et important. Donc voilà pour les résultats 2019. Je crois que là, je repasse la parole à Xavier pour commenter les résultats du premier trimestre de l'année 2020.
Absolument, merci Karine. Alors, en ce qui concerne le premier trimestre 2020, il marque à la fois, je dirais, le bénéfice continu de la dynamique qui a été engendrée au sein de la société ces quatre dernières années, et puis malheureusement les premiers impacts de la crise Covid-19 qui se présentent juste au moment du lancement de notre plan Build to Lead. Coface publie un résultat donc pour le premier trimestre 2020 de 12,7 millions d'euros, un chiffre d'affaires à 370 millions d'euros qui est en hausse de 0,9%, toutes choses égales par ailleurs par rapport au premier trimestre de l'année 2018. On voit, comme je le disais, la continuation d'une forte dynamique que nous avions observé en 2019, à la fois un niveau de rétention client qui est à un niveau record, une forte dynamique des affaires nouvelles qui se poursuit dans la lancée de 2019, sur la lancée de 2019 avant la mise en place du confinement. Une bonne dynamique également en matière de vente de services qui sont en hausse de 12%, ce qui est une de nos initiatives stratégiques dans le cadre du projet Build to Lead. Mais aussi, on observe la poursuite du ralentissement de l'activité des clients que l'on observe maintenant depuis près de 2 ans et qui devrait s'accélérer au cours des prochains trimestres du fait de l'impact de la crise Covid-19. Le ratio de sinistralité nette ressort à 57,1%. Il est en hausse de 14,5 points, amenant le ratio combiné à 86,8%. Il y a là-dedans deux phénomènes distincts. D'un côté, un ratio de sinistralité brute à 55,2%, marqué pour 9 points par l'impact de sinistres importants qui sont sans lien avec la crise actuelle. Et puis, d'autre part, une hausse de la sinistralité qui est attendue au titre de 2020 liée à la crise Covid-19 et dont on commence à reconnaître une partie de l'impact dans les comptes du premier trimestre 2020. Le ratio de coûts net est en amélioration, lui, de 2,2 points à 29,7% contre 31,9% au premier trimestre 2019. En raison d'un strict contrôle des coûts. Et là, clairement, on voit à nouveau une très bonne performance de l'entreprise. Le résultat financier, lui, s'élève à 2,7 millions d'euros. Dans un marché qui était très difficile, l'entreprise a très bien réagi, a réduit son exposition aux actifs risqués et notamment les obligations à haut rendement. On a augmenté également la part de liquidité dans le portefeuille qui a quasiment triplé à 21%. Contre 7% avant la crise. Cela amène le résultat net part du groupe, comme je l'ai dit, à 12,7 millions d'euros, un retour sur fonds propres tangibles annualisé à 3%. L'entreprise a pris la décision de ne pas verser de dividendes au titre de 2019 et de revoir cette décision en deuxième partie d'année. Ce non-versement entraînera un gain de 13 points sur le ratio de solvabilité, dont Coface bénéficie alors que nous abordons cette crise sans précédent. Sur la page 31, il y a un peu plus de détails sur donc le chiffre d'affaires à gauche, qui est en hausse de 0,9%, comme je l'ai dit. On voit d'une part que la baisse des prix est restée très contrôlée avec une baisse de 0,4% qui est la meilleure de performance que nous ayons connue depuis de nombreuses années. Cela reflète une très bonne maîtrise commerciale et cela n'intègre pas encore le plein effet des initiatives de retarification du portefeuille que nous prenons dans le cadre de la crise Covid-19. Les autres revenus à facturage et services sont en hausse de 1,2% avec en continu une baisse des revenus de la facturage en Allemagne liée à la maîtrise des risques et des marges que nous opérons, qui est compensée par une bonne croissance des revenus de services, comme je l'ai déjà mentionné. En sous-jacent également, comme je l'ai dit, le niveau de rétention de nos clients existants est à un niveau record et l'activité en matière d'affaires nouvelles au premier trimestre de 2020 a été à un niveau record. Le ratio combiné net, lui, ressort Où est-ce que j'en suis? Donc à 86,8%. Le ratio de sinistralité, lui, est à 57,1%, donc en hausse de 14,5 points. Cela s'explique, comme je l'ai déjà dit, par des sinistres importants qui sont sans lien avec la crise actuelle, mais aussi par une hausse de la sinistralité qui est attendue au titre de 2020. Le ratio de coût, lui, comme je l'ai dit, est à la meilleure performance depuis 4 ans. Et vous voyez donc qu'au total, quand on fait la somme du ratio de sinistralité et du ratio de coût, le ratio combiné net, lui, ressort à 86,8%, donc en hausse nette par rapport à l'année dernière. Et je pense qu'on peut passer maintenant à la page 32, où vous voyez le compte d'exploitation de l'entreprise avec un peu plus de détails. Vous voyez que le résultat opérationnel courant ressort à 30,9 millions d'euros. Il est donc en baisse de près de 46% par rapport à l'année précédente, tiré principalement à la baisse par la hausse du ratio de sinistralité. Vous voyez également sur ce compte de résultat un taux d'imposition qui est plus élevé à 50%, qui s'explique par la géographie des pertes engendrées au premier trimestre de 2020, particulièrement ces pertes ayant été réalisées dans des pays à plus faible taux d'imposition. Et puis, vous voyez en bas de la page donc que tout cela traduit une rentabilité des fonds propres, comme je l'ai dit, qui est en baisse à 3%, tirée par la sinistralité essentiellement, par un moindre rendement du portefeuille financier dans un contexte où l'ensemble des actifs financiers ont été extraordinairement malmenés au premier trimestre, et puis par un taux d'impôt, comme je viens de l'expliquer, qui est plus élevé au premier trimestre 2020 que précédemment. Cela nous amène à la dernière partie de cette présentation qui traite de l'impact de la crise Covid-19 sur l'activité de la société, avec tout d'abord, page 34, un point dont je pense que nous pouvons être satisfaits, qui est la rapidité avec laquelle Coface a agi et réagi pendant cette crise. Cette crise était un challenge au niveau opérationnel puisque, comme vous le savez, la plupart des pays dans lesquels nous opérons se sont mis en confinement. L'entreprise s'est adaptée quasi instantanément à cette nouvelle configuration et a permis à l'ensemble de ses équipes de travailler à partir de télétravailler à partir de la mi-mars. Cela s'est fait sans aucune rupture de service, de charge et de productivité. Nos clients n'ont absolument pas ressenti cette évolution. Et cela nous a permis de continuer à travailler encore plus et encore plus rapidement qu'avant à la mise en œuvre d'un grand nombre de mesures pour faire face aux conséquences de la crise et s'adapter à la nouvelle réalité du marché. En particulier, le nombre d'actions de prévention en matière de risque que nous avons menées sur la deuxième partie du mois de mars et qui se continue d'ailleurs depuis, a triplé par rapport à ce qu'ils étaient avant la crise. Nous avons lancé de nombreuses actions pour retarifer et ajuster notre gamme de produits et les différentes termes et conditions des polices que nous souscrivons auprès de nos clients. Nous avons aussi passé beaucoup de temps à discuter avec les États de mesures de soutien aux économies et de mesures de soutien que les États proposent aux assureurs crédits. Nous avons notamment signé le 16 avril un accord avec le gouvernement allemand qui est décrit d'ailleurs dans ses principes sur les pages suivantes. Nous avons signé deux accords avec les pouvoirs publics français pour relancer des dispositifs qui avaient été mis en place déjà en 2008, qui s'appellent CAP et CAS. France Export, qui permettent à l'État de prendre en charge certaines des limites sur lesquelles les assureurs crédits ne peuvent plus opérer. Et nous poursuivons des discussions actives avec de nombreux autres États. Je peux citer les Pays-Bas, la Belgique, la Norvège, mais aussi l'Angleterre. Tout ça est en cours. Nous avons mis en place très rapidement un plan d'efficacité des coûts qui est strict, et nous avons très vite redéfini les priorités du projet Build to Lead qui a été annoncé quelques semaines juste avant l'arrivée de la crise et de la mise en place du confinement qui avait, comme vous le savez, l'ambition de continuer à construire une société comme étant un leader de l'industrie. Face à la crise, nous avons bien sûr dû adapter à court terme les projets sur lesquels nous travaillons, et cette adaptation a été extrêmement rapide. Donc une très très bonne réaction de Coface aux événements. Sur la page 35, en matière de perspective, je dirais que Coface fait, comme l'a dit Julien Marcilly, face à une crise qui est inédite, une crise qui est sans précédent historique récent, qui puisse permettre une comparaison véritablement pertinente. Mais nous abordons cette crise avec une situation financière qui est renforcée. D'un côté, notre niveau de liquidité a quasiment triplé par rapport à la situation d'avant-crise en l'espace de quelques semaines pour atteindre 21% du portefeuille d'investissement. Cela grâce à des mesures qui ont été prises très tôt et qui visent à réduire les risques de certaines classes d'actifs. D'autre part, la solvabilité, comme on l'a déjà mentionné, avait été estimée au 31 décembre à 190%, et elle est très élevée. Compte tenu de la décision de ne pas proposer de distribution de dividendes, et même en intégrant la baisse de la valorisation des actifs au 31 mars 2020, ce ratio est estimé à environ 195%, donc très au-dessus de l'échelle de confort qu'on s'était fixée, de 155 à 175%. Pour l'instant, comme Julien Marcy vient de le dire, nous anticipons un fort impact de cette crise sur le PIB mondial. On pense que l'économie mondiale va se contracter d'au moins 1,3%, et ces évaluations sont en cours en permanence en train d'être revues au fur et à mesure que les nouvelles tombent et que l'on comprend mieux, d'une part, combien de temps va durer le confinement, et deuxièmement, comment progressivement il permet une reprise et à quel rythme. Cette crise se traduit par une hausse attendue du nombre de faillites dans le monde de 25%, voire plus, avec des disparités fortes selon les pays et les secteurs. On s'attend donc à une forte hausse de la sinistralité au cours des prochains mois, à une pression baissière sur notre chiffre d'affaires, puisque l'activité sous-jacente de nos clients, qui est la façon dont nous tarifons nos prestations, elle, va baisser. Et puis, bien sûr, dans un contexte de marché financier difficile et volatile, nous attendons une baisse de nos résultats financiers. Donc, nous attendons une hausse significative des déclarations de sinistres à partir du deuxième trimestre 2020. Cela aura un impact sur nos résultats en 2020. Il est difficile d'aujourd'hui d'estimer exactement l'ampleur de cet impact, puisque ça va dépendre de la durée résiduelle du confinement et dans de nombreuses économies qui sont toujours en train de décider sur comment cela va se passer, de la rapidité de la reprise économique liée à ce déconfinement progressif, et puis aussi, les gouvernements ont mis en place un peu partout dans le monde des mesures sans précédent, mais la question est de savoir, un, si elles seront suffisantes, deux, si elles seront implémentées de façon efficace, puisque c'est, là encore, on est dans un domaine qui est complètement inédit. Donc beaucoup d'incertitudes qui ne pourront être levées qu'au fur et à mesure du développement de la situation sanitaire, bien sûr, et économique, d'autre part. Et puis, la dernière page, page 36, présente juste pour information, je ne la décrirai pas en détail, les principaux types de schémas qui sont mis en place par les différents gouvernements à travers le monde. Un schéma français qui consiste à rajouter des limites assurées par l'État là où les assureurs crédits ne peuvent plus continuer d'assurer les risques qui deviennent trop importants. Et puis un schéma, je dirais, de type allemand qui permet à l'État de réassurer directement les assureurs crédits pour prendre en charge les pertes exceptionnelles liées à cette crise et permettre aux assureurs crédits de continuer à opérer en ayant un impact moindre sur l'économie. Voilà pour la présentation du premier trimestre et des conséquences de la crise Covid-19.
Merci Xavier. Peut-être sur la performance de l'action.
Je vais prendre la parole. Donc sur l'action, tout d'abord un point transparent 38 sur la structure de l'actionnariat. Nous avons donc un déficit toujours à 42,2% et un flottant à 56,4%. Dans ce flottant, les 5 premiers actionnaires représentent 21,25% du capital de Coface. À noter qu'en termes de distribution géographique, on a des investisseurs qui viennent principalement de 3 pays qui représentent à peu près des 3/4 des actions détenues, que sont le Royaume-Uni, la France et les États-Unis, donc quelque chose d'assez similaire à ce qu'on avait pu avoir les années précédentes. Page 39, alors c'est l'évolution du cours de bourse. Évidemment, on voit bien qu'il y a deux temps, une très bonne performance sur l'année 2019. Hein. Vous voyez que on était parti début d'année 2019 à un cours qui était de l'ordre de 8 euros. On est monté jusqu'à 12 euros juste avant la crise. On voit également que cette performance qui certes a été portée par des marchés qui étaient favorables, mais aussi à chaque fois qu'on publiait des résultats, on avait une bonne perception du marché puisque le cours valorisait à la hausse systématiquement après, et également comme élément marquant hein, qui a soutenu évidemment le cours de bourse, c'est en novembre la validation du modèle interne. On voit par contre, et ça c'est propre à ce qui s'est passé, c'est que l'annonce de la crise et les mesures de confinement et l'entrée dans le sujet, je dirais Covid-19, a évidemment conduit à une baisse très importante du cours de bourse, comme surtout du fait de l'incertitude dans laquelle on se trouve encore aujourd'hui, et c'est ce que Xavier a précisé. Donc voilà pour le point sur le cours et sur notre actionnariat. Je redonne la parole à François, je crois, ou Jérôme.
Oui, alors là, c'est la partie sur les commissaires aux comptes.
Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vais vous présenter de manière un petit peu synthétique les différents rapports, puisqu'au total, j'ai 7 rapports à vous présenter. Donc, il y a le rapport sur les comptes consolidés, le rapport sur les comptes annuels, les conventions réglementées, plus 4 rapports sur les opérations portant sur le capital. Donc, je me propose de vous faire une version un petit peu synthétique de ces rapports. Concernant les comptes consolidés, donc, dont le rapport est présenté dans le page 204 du document d'enregistrement universel 2019, ce rapport, comme l'année dernière, en termes de format, a peu changé, hein. Il comporte 8 sections. La première parle de l'opinion, dans laquelle nous certifions les comptes de Coface SA consolidés, comptes arrêtés par le conseil d'administration dans le contexte évolutif du Covid-19, point qui a été discuté tout à l'heure. Et donc c'est un référentiel IFRS qui est utilisé pour les comptes consolidés. Donc on rappelle ensuite le fondement de l'opinion, donc le référentiel de l'audit sont les principes applicables à notre profession en France, et on rappelle également que nous sommes indépendants pour pouvoir porter cette opinion. Un point spécifique, donc une observation qui porte sur la section principes et méthodes comptables de l'annexe sur deux nouveaux référentiels, IFRS 16 qui porte sur les contrats de location et IFRIC 23. Qui est sur l'incertitude relative aux traitements fiscaux. Observation donc sans porter sur l'opinion, simplement pour attirer l'attention des actionnaires. La section 4 est sur la justification des appréciations, donc qui sont les points clés de l'audit. Sur ce point-là, pas de changement par rapport à l'année dernière. 3 sections sur lesquelles nous avons souhaité attirer l'attention. Les estimations des provisions techniques pour sinistres tardifs, la valorisation des placements financiers des activités d'assurance et les estimations des provisions pour primes non acquises, dites PAN. Sur ces éléments-là, nous décrivons dans notre rapport les risques et les travaux que nous avons mis en œuvre pour couvrir ces zones de risque. Au titre des vérifications spécifiques donc, qui sont prévues par les textes légaux et réglementaires, on n'a pas d'observation à formuler particulière. On attire votre attention sur deux points, l'absence de couverture par nos travaux des éléments sur la solvabilité et le point sur le Covid-19 qui devait faire l'objet d'une communication spécifique à l'AG sur la base de nos échanges avec la direction, communication qui a été faite. Une section 6 au titre des informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires qui portent sur la désignation des commissaires aux comptes et l'origine des mandats. Pas de point particulier par rapport à ça, donc on rajoute un an tous les ans. La responsabilité ensuite de la direction des personnes concernant le gouvernement d'entreprise relatif aux comptes consolidés. Donc on réexplique que les comptes sont arrêtés et la responsabilité de la direction, la responsabilité des commissaires aux comptes et donc quel est l'objectif de la démarche d'audit, le fait que l'on fait un rapport au comité d'audit, rapport qui doit être cohérent avec l'opinion que nous avons exprimée dans la première partie. Donc voilà pour les comptes consolidés, donc en référentiel IFRS. Concernant les comptes annuels, toujours page 208 du document d'enregistrement universel, la structure d'ensemble est la même que pour les comptes consolidés. Donc je me pencherai plutôt sur les écarts et les points saillants. Donc sur l'opinion, donc toujours une certification des comptes annuels. En termes de référentiel, on passe du référentiel IFRS au référentiel français. Donc c'est un point important à noter. Il n'y a pas d'observation dans ce rapport. Concernant la justification des appréciations et les points clés de l'audit, il porte, s'agissant de la holding et ses comptes annuels, sur la valorisation des titres de participation. Au titre des vérifications spécifiques, quelques points à noter. Donc sur le rapport sur le gouvernement d'entreprise, nous avons fait un certain nombre de vérifications, et sur les prises de participation, donc sur lesquelles nous n'avons pas d'observation particulière apportée à votre connaissance. Le reste sur les désignations des commissaires aux comptes, assez logiquement, c'est la même rédaction que pour les comptes consolidés. Responsabilité de la direction et respective des CAC, pas de points spécifiques sur ce sujet-là. Voilà en ce qui concerne les rapports sur les comptes annuels. Concernant le rapport spécial qui est page 323 du document d'enregistrement universel, deux conventions autorisées au cours de l'exercice écoulé. Il s'agit de conventions que vous connaissez puisqu'elles sont modifiées chaque année. L'émission de caution dans le cadre de l'activité d'affacturage, donc COFAS Finance et COFAS Pologne bénéficient de lignes de crédit et de la caution solidaire de COFAS SA, caution demandée par les banques, dont Natexis SA. Le montant au titre de l'exercice 2019 a été porté à 800 millions sur les lignes de crédit. Et Natexis SA et les personnes concernées sont Natexis SA et les mandataires sociaux communs, François Rahi et Nathalie Bricker. La deuxième convention porte sur la convention de liquidité tripartite avec Odo, BHF et Natixis. La rémunération pour cet exercice est 40 000 euros. Les mandataires et les personnes concernées sont les mêmes que ceux précédemment évoqués. Et il y a également deux conventions déjà approuvées par l'exercice, par l'Assemblée générale sur les exercices précédents. Donc le crédit syndiqué Club Deal pour les lignes de backup au financement de l'activité d'affacturage par des billets de trésorerie au profit de COFAS Finance, et la garantie de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur envers COFAS SA du paiement de la dette subordonnée. Donc voilà concernant les rapports, le rapport spécial. Concernant les rapports sur les opérations sur capital, donc le premier rapport, toujours page 325, porte sur la réduction du capital et objet de la résolution 13. Donc nous n'avons pas d'observation à formuler. Le rapport concernant les résolutions 15, 16, 17 et 18, donc qui pour notre part est sur la page 326, qui concerne l'émission d'actions et de diverses valeurs mobilières avec le maintien et ou la suppression du droit préférentiel de souscription. Sur ce sujet-là, pas de point particulier à mentionner en termes sur les informations contenues dans les rapports du conseil d'administration, étant entendu qu'un certain nombre d'éléments seront précisés ultérieurement et qu'on devra se pencher sur ces éléments-là plus tard et également en cas d'utilisation de ces autorisations. Sur le rapport sur l'augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne en entreprise, page 328 et objet de la résolution numéro, c'est la seule que je n'avais pas notée évidemment, de la résolution 19, Donc sur ces éléments-là, donc nous avons examiné effectivement le rapport et donc on devra regarder un certain nombre d'éléments ultérieurement sur les conditions d'augmentation de capital. Pas d'observation et on aura un rapport complémentaire à faire lorsque cette délégation sera utilisée par le Conseil. Le dernier rapport porte sur l'augmentation du capital avec souscription du droit préférentiel de souscription en faveur d'une catégorie de bénéficiaires déterminés, donc résolution numéro 20, et donc page 329 pour retrouver notre rapport, donc de manière identique. Pas d'observation à formuler, c'est sur les éléments qui ont été mis à notre connaissance. Et sous réserve de l'examen ultérieur des conditions d'augmentation du capital, on n'a pas d'observation. Et lorsque les conditions définitives seront fixées, on ne peut pas apporter. Enfin, puisque, pardon, excusez-moi. Les conditions définitives dans lesquelles l'augmentation de capital sera réalisée n'étant pas fixées, on ne peut pas se prononcer dessus. Et également, comme pour le précédent, pour les différents éléments précédents, on émettra un rapport complémentaire lorsque cette délégation sera utilisée. Voilà en ce qui me concerne sur les différents rapports que j'avais à vous présenter.
Merci beaucoup pour cette présentation complète. Je vous propose qu'on passe au point suivant de l'ordre du jour, qui est la présentation des travaux du Conseil d'administration. Donc, nous sommes au slide 42. La gouvernance de COFAS en 2019 a été extrêmement classique, elle n'a pas été modifiée. Évidemment, nous avons une gouvernance dans laquelle l'Assemblée générale des actionnaires nomme et révoque le conseil d'administration, qui lui-même nomme et révoque le directeur général, avec, je dirais, les différents comités qui sont habituels, le comité des comptes et de l'audit, le comité des risques, le comité des nominations et des rémunérations, et la gouvernance de COFAS a comme référentiel le code AFEP-MEDEF. Alors, si on passe à la slide 43, vous retrouvez la composition du conseil d'administration au 14 mai 2020, donc j'ai l'honneur de présider. Vous voyez que le conseil d'administration de COFAS au 14 mai 2020 comprend 12 administrateurs, dont 5 indépendants, qui sont ici indiqués en vert. Alors, l'activité du conseil d'administration en 2019, elle a donné lieu à 7 séances de travail avec un taux d'assiduité moyen de 92%. Et vous retrouvez dans la colonne de droite, je dirais, les principaux travaux. Certains sont, je dirais, récurrents, se retrouvent chaque année. On a eu évidemment une activité aussi un peu particulière en 2019 sur le modèle interne. En ce qui concerne le comité des comptes et de l'audit, il est présidé par Éric Aymard, administrateur indépendant. Il comprend 3 membres, dont 2 administrateurs indépendants. 5 séances de travail ont été tenues en 2019, avec, comme vous voyez, une assiduité parfaite. Et vous retrouvez les principaux travaux effectués en 2019. À noter le projet IFRS 17, bien sûr, qui est un projet très important de réforme comptable pour toutes les sociétés d'assurance. Si je passe à l'activité du comité des risques en 2019, nous avons un comité qui est présidé par Nathalie Lomont, elle est aussi administratrice indépendante, donc avec 3 membres, dont Nathalie. Il y a eu 6 séances de travail en 2019, avec là aussi un taux d'assiduité moyen de 100%. Et les principaux travaux en 2019, là aussi vous avez des travaux, je dirais, récurrents, qu'on retrouve chaque année. On peut évidemment noter sur l'année 2019 le modèle interne partiel qui a été évidemment un sujet très important. Voilà. Donc, je passe ensuite à l'activité du comité des nominations et des rémunérations. Il est présidé par Olivier Zarwati qui va s'exprimer juste au point suivant, qui lui aussi est un administrateur indépendant. Et il comprend 3 membres, dont 2 administrateurs indépendants. 2 séances de travail ont été tenues en 2019, avec là aussi une assiduité parfaite. Vous retrouverez les principaux travaux conduits en 2019 et Olivier va revenir sur certains sujets tout à l'heure. Ça inclut les éléments de rémunération du directeur général, mais aussi le suivi des plans de succession et le renforcement des équipes managériales ainsi que les procédures RH. Alors, le Conseil a procédé à une auto-évaluation de ses travaux, conformément aux recommandations du code AFEP-MEDEF. De manière générale, la performance du Conseil est jugée satisfaisante quant à l'organisation du Conseil et de ses travaux, l'implication et la compétence des administrateurs, les réponses obtenues de la société à leurs questions, la relation de confiance avec le président et le directeur général et le respect des règles de gouvernance. Nous avons néanmoins identifié quelques pistes d'amélioration pour 2020. La création d'un espace partagé regroupant les documents du Conseil et des comités. La poursuite des efforts visant à améliorer les délais de transmission des documents. Ces deux éléments ont déjà été mis en œuvre. Et puis, le renforcement de la compétence assurance, si possible, au sein du Conseil. Voilà pour les principaux présentations de la gouvernance de COFAS sur l'année 2019. Et je vais passer maintenant la parole à Olivier Sarwati, président du comité des nominations et des rémunérations, sur le sujet de la rémunération des mandataires sociaux. Olivier.
Merci François. Je vais donc vous présenter dans un premier temps la planche 50, qui est un rappel puisqu'elle résume les conditions de rémunération du directeur général pour l'année 2019. Donc la rémunération fixe est de 575 000 euros. La rémunération variable annuelle est calée sur deux catégories d'objectifs. Nous avons des objectifs quantitatifs et des objectifs qui sont des objectifs financiers et des objectifs managériaux et stratégiques. Les objectifs quantitatifs portent sur 60% de la rémunération variable, les objectifs stratégiques et managériaux sur 40%, et quand tous les objectifs sont atteints, la rémunération variable du directeur général serait donc de 100% de sa rémunération fixe. Mais ces objectifs peuvent être dépassés, donc si les objectifs financiers sont dépassés et ils sont capés à 250% de leur valeur nominale, alors la rémunération variable calée sur ces objectifs montrait à 150% de la rémunération fixe. Les objectifs stratégiques et managériaux peuvent également être dépassés mais capés seulement à 125% de l'atteinte des objectifs nominaux. Et là, la rémunération variable associée passerait de 40% à 50% de la rémunération fixe du directeur général. Donc la somme postes variables associés aux objectifs managériaux et quantitatifs pourraient donc varier de 0 à 200% de la rémunération fixe. Ceci est un rappel, ces conditions sont strictement identiques à celles, sont celles de l'année 2019 et sont d'ailleurs identiques à celles des années précédentes. Pour les modalités de versement de la rémunération variable annuelle, et c'est toujours un rappel, 30% de la rémunération variable due au titre d'une année de l'année N est différée. Elle est versée en année N plus 1 et en année N plus 2 pour 50 et 50% de ces 30%, c'est-à-dire pour 15 et 15%, et ceci afin de respecter la norme de solvabilité puisque cette rémunération différée ne serait versée que dans des conditions normales où on n'aurait pas à constater une perte exceptionnelle ou une révocation pour faute de travail. À ceci s'ajoute une rémunération variable de long terme qui prend la forme d'attribution gratuite d'actions et ce chiffre est de 70 000 actions de performance au titre du LTIP, Long Term Incentive Plan, de 2019. Alors, une comparaison a été faite de ces modalités avec un panel du marché. Un panel du marché constitué sur 30 sociétés du SBF 80 comparable à COFAS en termes de chiffre d'affaires, d'effectifs et ou de périmètre géographique et de capitalisation boursière. Ce que l'on constate, c'est que la partie fixe de la rémunération du directeur général en 2019 est 17% inférieure à la médiane du panel. La partie variable court terme est à 12% inférieure à la médiane du panel, et la partie long terme, action de performance, est 21% inférieure. Ce n'est pas très surprenant puisque les conditions de rémunération n'ont pas évolué pendant les 4 années du mandat du directeur général. Alors, qu'est-ce que ça donne sur l'année 2019? Ça, c'est le plan 51 qui le dit. Bah, la partie quantitative est le résultat des chiffres. Nous avons les 60% se décomposent en 20% sur le chiffre d'affaires, 20% sur le résultat net, 10% sur les frais généraux et 10% sur le loss ratio. Là, les calculs sont non ambigus et les taux de réalisation sont donc donnés dans la planche pour un total de 106,43%, valant 611 973 euros. 106,43% de la part fixe de la rémunération. En ce qui concerne les objectifs stratégiques et managériaux, là, il y a évidemment un facteur d'appréciation. Il y a 4 objectifs qui pèsent 15% pour le nouveau plan stratégique, le plan Build to Lead, 15% pour l'acceptation du modèle interne par l'autorité réglementaire, 5% pour le renforcement du plan de succession du comité exécutif et 5% pour la poursuite de la transformation culturelle des process commerciaux et des projets. Bon, le taux de réalisation a été bon, puisque nous sommes à 100% au moins pour les objectifs 1 et 3 et 125% pour les objectifs 2 et 4, ceci valant donc 45% de la part en rémunération variable du salaire fixe du directeur général. Le total donc de la rémunération variable est de 151,43% pour un montant de 870 723 euros. Alors, le mandat du directeur général venait en renouvellement à la fin de cette quatrième année et son renouvellement a été voté pour 4 nouvelles années par le Conseil. La plupart des clauses ont été maintenues, une nouvelle clause a été ajoutée, donc le directeur général reste mandataire social non salarié non administrateur, sans contrat de travail, sans stock option, sans retrait de chapeau. Il bénéficie des régimes santé et prévoyance en vigueur au sein de COFAS. 62,5% des cotisations sont prises en charge auprès de la garantie sociale du chef d'entreprise et du mandataire sociaux. Il dispose d'un véhicule de fonction et il disposait d'une indemnité de cessation de fonction soumise à conditions de performance et plafonnée à 2 années de rémunération. À cela a été ajoutée la clause de non-concurrence en raison de l'expérience acquise pendant ces quatre années par Xavier Durand au sein de COFAS. Donc cette clause de non-concurrence doit évidemment être qualifiée pour les fonctions de dirigeant, président ou directeur général d'une entreprise donc éventuellement concurrente, dans le périmètre du groupe de l'assurance crédit de dimension internationale pour une durée de 1 an, c'est la durée de validité de cette clause, et elle est rémunérée évidemment pour une indemnité mensuelle de 41 667 euros bruts, soit 500 000 euros au total, dans l'hypothèse où cette clause jouerait, mais on a la possibilité de la lever. Et le montant maximum que vaudrait la rémunération de cette clause, plus une éventuelle indemnité de cessation de fonction soumise à conditions de performance et de performance, ne devrait pas excéder 2 années de rémunération fixe et variable. Ceci amènera donc, voilà pour les clauses de l'engagement de Xavier Durand. Par ailleurs, sa rémunération fixe, il est proposé de la monter de 30% et de l'amener donc à 750 000 euros, ce qui nous positionnerait à 8%, cette fois-ci au-dessus de la médiane du panel, en tenant compte de l'expérience acquise et de la de la qualité de la prestation de notre directeur général. Pour les éléments de la rémunération variable, les principes ne changent pas. 100% de la rémunération fixe pouvant être dépassée en cas de dans l'hypothèse où les objectifs quantitatifs et les objectifs qualitatifs seraient dépassés sur les mêmes paramètres, c'est-à-dire pouvant aller jusqu'à 200% de la rémunération fixe. Par ailleurs, une rémunération variable de long terme sous forme de l'attribution gratuite d'actions, d'actions de performance, est également retenue pour un montant, pour un total de 75 000 actions. Alors, cette valorisation de ces 75 000 actions a été fixée à 862 463 euros à la date d'attribution, qui était antérieure évidemment à l'apparition de la crise Covid-19. Il reste à définir les paramètres sur lesquels la rémunération variable court terme et long terme serait due. Alors nous avons des objectifs financiers comme en 2019 et des objectifs stratégiques et managériaux. Les objectifs financiers sont sensiblement identiques à ceux de 2019, 20% sur le chiffre d'affaires, 20% sur le résultat net, 10% sur le ratio de coût net de réassurance, 10% sur le loss ratio hors frais de gestion des sinistres, et les objectifs stratégiques et managériaux ont été légèrement amendés, un total de 40% sous l'attente de 15% pour la poursuite de la transformation culturelle, renforcement de l'engagement des salariés et satisfaction de clients, 10% sur l'exécution du nouveau plan stratégique, 10% sur les paramètres RSE et 5% sur le renforcement du plan de succession du comité exécutif. On maintient un taux de 30% de rémunération variable annuelle différée, suivant les mêmes paramètres, 70%. Donc, verser l'année N plus 1, 15% verser l'année N plus 2 et 15% verser l'année N plus 3 dans l'hypothèse où ces versements seraient justifiés au titre de la... c'est-à-dire sans perte excessive observée et sans révocation pour faute grave ou lourde avant la date du versement. En ce qui concerne maintenant la rémunération long terme, c'est-à-dire sous forme d'actions de performance, le chiffre a donc été fixé à 75 000 actions gratuites, réparties en trois tiers. Un tiers suivant les critères de performance relatifs au ROATE, Return on Average Tangible Equity, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022. Un tiers serait attribué sur le TSR de COFAS, c'est-à-dire une comparaison du profil du titre à un panel d'établissements composant l'indice Eurostox Assurance de la période. Et un tiers des actions serait acquis sous condition de réalisation de ratio de coût net au 31 décembre 2022. La période d'acquisition est de 3 ans et 30% des actions, de même qu'en 2019, devraient être conservées par le directeur général à la fin de son mandat social ou de toute autre fonction qu'il serait amené à exercer au sein de COFAS. De cette façon, la structure de la rémunération du directeur général se compose d'une partie versée dans l'année rémunération annuelle fixe et rémunération variable versée à l'année N plus 1. Et la partie différée représente donc 30% de la rémunération variable annuelle et l'ensemble de la rémunération variable long terme. Et ceci représente plus de 65% de la rémunération variable globale en application des normes FAMENSI. Donc la synthèse de la rémunération due au directeur général au titre des exercices 2019 et 2020, et ça c'est la planche 57, en application de l'ensemble de ces principes. En 2019, le directeur général se voit attribuer une rémunération totale de 1 460 526 euros et se voit verser une rémunération, donc le résultat des 70% de rémunération variable et des 15% des deux années antérieures, de 1 425 184 euros. Au titre de 2020, et à compter de l'AG dans les comptes de l'exercice 2019, la rémunération du directeur général sera de 1 583 216 euros. Venons-en maintenant au président, aux conditions du conseil d'administration. Et c'est la planche 58 qui initie cette partie de la présentation. La planche 58 est traditionnellement la plus facile à présenter puisque le président du conseil d'administration ne perçoit aucune rémunération, ni fixe ni variable, pas d'action de performance et pas d'indemnité de cessation de fonction. En ce qui concerne les administrateurs, la politique retenue est une politique très, très classique qui n'évolue pas par rapport aux années antérieures. Un montant total de 450 000 euros est prévu pour le conseil d'administration et les paramètres de versement sont ceux présentés sur la planche 59. En application de cette politique et compte tenu du très fort taux de présentéisme des administrateurs dans les séances du conseil et des comités concernés, vous avez en planche 60 les montants reçus par chacun des administrateurs. Il est à noter que Nathalie Bricaire et Anne Salimongoz ne reçoivent pas de rémunération, étant donné que le contenu de la politique de la société d'Atypis. Voilà, je rends la parole à Carole Litton, qui passera à la partie suivante de la présentation.
Merci Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter les résultats des votes de l'ensemble des résolutions. Il y avait 22 résolutions en tout. Pour éliminer le suspense, je vous annonce dès maintenant que l'ensemble des résolutions ont été adoptées. Et pour passer maintenant dans plus de détails, en ce qui concerne les résolutions à titre ordinaire, la première résolution porte sur l'approbation des comptes sociaux de l'exercice écoulé. Cette résolution a été adoptée à un pourcentage de 99,95% des voix. Pour l'ensemble des résolutions, compte tenu du fait qu'on ne prend plus en compte les blancs, les abstentions et les nuls, je me bornerai à vous donner le taux d'approbation qui suffit à se faire une idée précise. Donc pour la résolution numéro 2 qui porte sur l'approbation des comptes consolidés de l'exercice, elle a été adoptée à 99,953% des votes. La résolution numéro 3 qui porte sur l'affectation du résultat et donc sur la proposition du Conseil de ne pas distribuer de dividendes au titre de l'exercice 2019, elle a été adoptée à 99,96% des votes. La résolution numéro 4 porte sur la ratification de la cooptation de Mme Marie Pic-Paris. Elle a été adoptée à 62,69% des votes. La résolution numéro 5 autorise le conseil d'administration à opérer sur les actions de la société. Elle a été adoptée à 99,88%. La résolution numéro 6 porte sur l'approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et les conventions qui y sont contenues et décrites. Cette résolution numéro 6 a été adoptée à 99,98% des votes. La résolution numéro 7 porte sur l'approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l'exercice 2019 et a été adoptée à 98,35% des votes. La résolution numéro 8 porte sur l'approbation des différents éléments de rémunération versés ou attribués au directeur général au titre de l'exercice 2019 et a été adoptée à 98,58% des votes exprimés. La résolution numéro 9 porte sur l'approbation de la politique de rémunération du directeur général pour l'exercice 2020 et a été adoptée à 60,44% des votes. La résolution numéro 10 porte sur l'approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l'exercice 2020. Elle a été adoptée à 99,94% des votes. La résolution numéro 11 porte sur la nomination d'un commissaire aux comptes. La personne du cabinet Mazars a été adoptée à 99,88%. Et la dernière résolution à titre ordinaire, qui est la numéro 12, qui était la décision de ne pas procéder au remplacement d'un commissaire aux comptes suppléant, a été adoptée à 99,80% des votes. Si nous passons maintenant aux 10 résolutions à titre extraordinaire, la résolution numéro 13 était une autorisation au Conseil de réduire le capital par annulation des actions détenues en propre. Elle a été adoptée à 98,50% des votes. La résolution numéro 14 portait sur la délégation au Conseil en vue d'augmenter le capital social par incorporation de réserves et a été adoptée à 99,97%. La résolution numéro 15, délégation en vue d'augmenter le capital social avec maintien du droit préférentiel de souscription, a été votée par 99,49% des voix pour. La résolution numéro 16, délégation de compétences en vue d'augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'offres au public, a été adoptée avec à 89,62% des voix pour. La résolution numéro 17, délégation de compétences en vue d'augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription, mais cette fois dans le cadre d'offres visées à l'article L411-2 du Code monétaire et financier, c'est-à-dire les offres réservées aux investisseurs qualifiés, a été adoptée à 85,20% des suffrages pour. La résolution 18, délégation en vue d'augmenter le capital social en rémunération d'apport en nature, a été adoptée par 91,27% des voix pour. La résolution numéro 19, augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription réservé aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, a été adoptée par 99,20% des voix pour. La résolution numéro 20, augmentation de capital en vue d'augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription en faveur d'une catégorie de bénéficiaires déterminée, dont le but est le même que celui de la résolution numéro 19, mais en faveur de salariés de la société située à l'étranger et n'étant pas adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, cette résolution a été adoptée avec un pourcentage de 99,20% de voix pour. La résolution numéro 21, modification de l'article 13 des statuts pour porter à 70 ans l'âge limite du président du Conseil, aujourd'hui fixé à 65 ans, a été adoptée à 99,77%. Et enfin, la résolution numéro 22 portant sur les pouvoirs a été adoptée à 99,98%. Voilà.
Merci beaucoup, Carole. Et donc, je crois que ça clôt ainsi l'Assemblée générale. Je voudrais remercier les actionnaires d'avoir exprimé leur intérêt pour la société en participant à cette Assemblée dans des circonstances exceptionnelles et selon des modalités exceptionnelles, bien sûr. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Merci beaucoup à toutes et à tous. Au revoir.